Shalom, la dernière fois on a parlé encore de Gog ou Magog et je vous citais un passage du Talmud, traité Sanhedrin, page 98b, dans lequel il y avait une discussion entre certains rabbins, d'un côté Rabba et Oula qui disaient que le Machiav vienne mais on ne veut pas être présent quand il viendra parce que ça va être tellement terrible, et Rabbi Yochanan qui dit non, je veux être présent même dans des conditions terribles d'être à l'ombre du crottin de son âne, je veux mériter d'être présent lorsque Machiav viendra. Juste un peu avant, dans cette même page du Talmud, il y a une histoire assez intéressante qui a à voir aussi avec cette guerre de Gog ou Magog. C'est au bas de la page A, 98, à Sanhedrin. Les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma lui ont demandé « Rabbeinu, notre dites-nous quand vient le fils de David. Quand aura lieu l'époque messianique, la Géoula que nous attendons tous ?» Rabbi Yossi ben Kisma leur a répondu « J'ai peur que si je vous dis, vous allez me demander de faire une sorte de miracle pour prouver que ce que je dis est vrai, une sorte de « fais-nous un signe comme ça, miraculeux, qui prouve que ce que tu dis est vrai. » Les élèves lui ont répondu « Non, on te promet qu'on ne te demandera absolument rien, mais dis-nous quand il vient. » Elle dit « Ok, je vous dis, quand ce portail-là sera détruit, va être construit, sera redétruit, sera reconstruit, sera redétruit, on n'aura pas le temps de le reconstruire, que là déjà le fils de David, le Mashiach, se dévoilera. » Les élèves lui ont répondu « Rabbeinu, notre âme, fais-nous un signe miraculeux qui prouve que ce que tu as dit est vrai. » Le rabbin dit « Je me promets que tu ne vas pas me demander. » « C'est vrai, mais quand même. Bon, alors, si ce que je dis est vrai, que les eaux de la source du... » C'est marqué là-bas Pamias, mais les commentateurs ont dit que c'est le Banias, c'est connu ici au nord de Jérusalem, au nord d'Israël, près du Golan, que les eaux de la source du Banias se changent en sang. Si ce que je dis est vrai, qu'elles se changent en sang. Le Talmud dit, et à ce moment-là, les eaux du Banias se sont changées en sang. Le Talmud continue et dit, lorsque Rabbi Yossi ben Kisma se trouvait sur son lit de mort, agonisant, il a demandé à ses élèves enterrer profondément mon cercueil. Il faut comprendre qu'à l'époque, le cercueil n'était pas fait de bois, c'était une sorte de pierre qu'on avait creusée à l'intérieur, c'était comme une grosse baignoire. Comme ça, on posait le corps et après, on mettait dessus un couvercle de pierre aussi. Enfoncer beaucoup mon cercueil profondément dans la terre. Pourquoi? Alors, suivez bien ici. Car il n'y a pas de palmier en Babylonie auquel il n'y aura pas un cheval perse qui sera attaché. Et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'auras pas un cheval mède qui va manger du foin. Passage extrêmement énigmatique. Rashi va nous expliquer. Je répète le passage. Enfoncez profondément mon cercueil, car tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui sera attaché. Et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin, qui mangera du foin. Rashi dit... On va déterrer les cercueils pour en faire des mangeoires pour les chevaux. À l'époque, comme je l'ai dit, les cercueils étaient faits comme une sorte de baignoire, donc c'est très pratique. Il n'y a plus de corps déjà, c'est plus très fait depuis longtemps. On y met du foin et les chevaux peuvent se nourrir dans ces mangeoires improvisées. Rashi continue et nous dit, que signifie ce passage? Tu n'as pas de palmier en terre de Babylone dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. La Babylonie, c'est où aujourd'hui? La Babylonie, c'est l'Irak. La Perse, c'est où aujourd'hui? C'est l'Iran. Ah! C'était il y a une quinzaine d'années. On parlait d'un éventuelle attaque des Américains sur l'Irak. Je lui ai dit, vous êtes très gentil. Ok, on enlève Saddam Hussein, on enlève l'Irak. Les Américains s'installent en Irak. Mais ce n'est pas leur pays. Combien de temps ils vont rester là-bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Un beau jour, ils vont partir. Entre, nous, on a deux grands ennemis. On avait l'Irak et l'Iran. Énorme, énorme. Quand j'étais à l'armée, je me souviens que notre général avait dit, c'était une trentaine d'années, vous ne pouvez pas savoir quelle chance nous avons que ces deux géants sont en guerre l'un contre l'autre. 8 ans. Ils se sont déchiquetés. Et nous, on était sauvés. Bah, au Hachem, on n'avait pas affaire avec ces deux ennemis. Vient l'Amérique. Enlève quelque part Saddam Hussein qui faisait écran entre l'Iran et nous. Bon, maintenant, l'Amérique fait écran entre l'Iran et nous. Mais combien de temps l'Amérique va rester en Irak? Eh bien, il est en train de partir. Obama, il est monté au pouvoir. Il a dit, ok, moi, je retire les soldats. Donc maintenant, entre l'Iran et nous, qui y a? Mais il n'y a plus rien. L'Irak, c'est plus l'Irak de Saddam Hussein qui était puissante contre l'Iran. C'est du beurre. T'es prêt à la Syrie, la Jordanie, c'est du beurre. Mesdames, messieurs, le Talmud écrit, Rashi nous écrit il y a 900 ans, que le Talmud nous raconte il y a 1500 ans, dans la guerre de Gog ou Magog, l'Iran, c'est-à-dire la Perse, va conquérir la Babylonie, l'Irak. et toute la Babylonie sera remplie des armées irakiennes. Tu n'auras pas un palmier en terre de Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval irakien qui est attaché, un cheval perse, donc iranien qui sera attaché. Et conclut Rashi, et de là ils viennent et conquissent la terre d'Israël. Tu n'auras pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'auras pas un cheval mède. Mède perse, c'est le même pays. Dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. Ce n'est pas forcé qu'on vive ce scénario. C'est clair qu'aujourd'hui, avec l'Iran, s'il y a un pays qui nous menace vraiment, c'est l'Iran. C'est clair, pas besoin d'être un prophète pour comprendre qu'on va arriver à un conflit. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'imagine que si Ahmadinejad n'a plus la bombe atomique, n'a plus ses missiles, il a quand même quelques dizaines de millions de chiites suicidaires prêts à aller à pied, à cheval, à dos d'âne, en djihad, en guerre sainte pour sauver Jérusalem. Dieu nous en préserve. Est-ce que l'Israël va souffrir, oui ou non? Comme je l'ai dit la dernière fois, les deux options existent. Néanmoins, je vais quand même donner une petite information supplémentaire positive. J'ai posé la question, deux questions, c'était une vingtaine d'années, au plus grand rabbin du peuple juif à l'époque, c'est un des plus grands, le rabbin Ben-Sion Abba Shaul Zatzal. Je lui ai dit, Gog ou Magog, est-ce que ça va être terrible comme c'est marqué? Il m'a dit, Da'ati, à mon avis, bien que Gog ou Magog n'a pas eu lieu, on n'a pas encore eu cette union des peuples contre nous, contre Jérusalem, dirigée par Gog, roi de Magog, ce pays qui est au nord d'Israël, dont nous ne connaissons pas l'identité. Ça, il n'y a pas eu. Le décret de douleur, les douleurs d'enfantement du Messie, c'est le décret de souffrance que Israël doit endurer durant cette guerre de Gog et Magog, à mon avis, dit le rabbin Ben-Sion, c'est déjà passé dans la Shoah. Dans la Shoah, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait la Shoah. Des raisons que nous connaissons un peu, beaucoup que nous ne connaissons pas. Dans toutes ces raisons, le rabbin Ben-Sion rajoute aussi, la souffrance de Gog et Magog est déjà passée là-bas. Espérons qu'il a, j'espère, et j'imagine qu'il a eu raison, donc normalement il y aura Gog et Magog, mais on espère. Seulement dans la peur. Peur, il y aura, parce qu'il faut qu'Israël fasse choix. Il faut qu'Am Israël crie à Dieu, c'est clair. Deuxième chose que je posais comme question au Rabbi Ben-Sion, s'ils viennent sur Jérusalem, ils viennent du nord. Donc moi, j'habite en Jérusalem, qu'est-ce que je fais? Ben, ils ne vont pas arriver en une seconde, on va entendre, ils arrivent lentement. Ben, je vais au Soudan, je ne sais pas, je vais au sud, d'accord. Il n'a rien dit, il m'a fait comme ça. Avec les doigts, ici. L'endroit le plus, paradoxalement, l'endroit le plus sûr du monde sera Jérusalem. Il y aura un parapluie, on appelle ça un parapluie aérien, ce sera un parapluie divin, d'anges qui seront là pour nous sauver. Bonne journée.